France Culture.
La science CQFD, Natacha Triou.
Comme chaque premier lundi du mois, on se réunit avec tout ce que la médiation scientifique fait de plus pétillant. Que trouve-t-on à la une de la presse scientifique en ce mois de février ? À l'ère de l'économie de l'attention, les vidéos ultra courtes, ces fameux brain rot, abîment-elles vraiment notre cerveau et notre cognition? Ensuite, la banane Cavendish, quatrième aliment le plus consommé au monde, est menacée par un champignon. Une crise qui illustre les dangers qui pèsent sur ces monocultures clonales généralisées. Puis, côté militaire, la furtivité des avions de chasse progresse. Enfin, une révolution en chimie. Si pendant longtemps, solvants, liquides et gaz étaient la norme, la mécanochimie s'impose comme une technologie émergente et durable. Brain rot, banane, furtivité, mécanochimie, au clair de la une. Et Mathilde Fontaise, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes rédactrice en chef du magazine Epsilon, notre magazine partenaire. Blaise Mao, bonjour.
Bonjour Natacha.
Vous êtes rédacteur en chef du magazine Ouzbek Erika. Philippe Pajou, bonjour.
Bonjour Natacha, bonjour à tous.
Vous êtes rédacteur en chef de la revue La Recherche et Mathieu Lefrançois, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chef de rubrique physique pour le magazine Science et Vie Junior. Et donc, un grand merci à vous quatre d'être là, tous les quatre réunis autour de cette table. Et merci à vous d'être là au rendez-vous, en direct ou à toute heure en podcast. N'hésitez pas à nous suivre, à nous retrouver sur Blue Sky, sur notre compte @sciencecqfd. Tous les jours, on publie pour vous des ressources, des liens. C'est donc à retrouver sur notre compte @sciencecqfd. Alors tout de suite, on commence avec un débat dont on entend beaucoup parler. Les brain rot, donc ces vidéos courtes, sont-elles un danger pour notre cerveau? Cette question est également posée par Ouzbek Erika et on écoute notre première archive.
J'aime bien regarder les danses, les apprendre et après les faire.
Elle fait des dessins, elle fait des chorés avec ses copines ou avec son frère. Ça n'a pas que des aspects négatifs, ça l'inspire aussi un petit peu.
La chorégraphie qu'elles viennent d'enregistrer dure moins de 10 secondes. C'est la particularité de ce réseau social. Les vidéos diffusées sont très courtes.
J'aime bien que ça dure que quelques secondes parce qu'au bout d'une minute, on s'ennuie.
Comme Chloé, 15 millions d'utilisateurs en France ont adopté ces formats ultra courts et rythmés. Ce qui peut poser problème, notamment chez les adolescents qui représentent un quart des abonnés. À l'école, beaucoup d'enseignants déplorent une baisse de la concentration chez les élèves. La mère de Chloé ne blâme pas forcément TikTok, mais elle confirme.
Effectivement, elle n'est pas très concentrée longtemps à l'école et les profs le disent.
De plus en plus de parents s'inquiètent de voir leur enfant déconnecté de la réalité. Et c'est valable pour tous les réseaux sociaux.
Il y a ce risque d'être enfermé dans une espèce de monde parallèle, quelque part, que finalement on va participer à créer, puisque en fonction de ce qu'on aime et de ce qu'on regarde, l'algorithme du réseau va vous proposer de plus en plus quelque chose qui vous convient et va vous faire croire que le monde ressemble finalement à celui que vous connaissez, que vous aimez déjà.
Voilà, reportage de TF1 en mars 2023. Alors ces vidéos courtes de TikTok, Blaise Mao, c'est ça des brain rot? Peut-être un petit point de définition et étymologie sur ce mot-là.
Oui, ça s'impose. Brain rot, c'était le mot de l'année 2024 pour le dictionnaire Oxford, qui est toujours à l'affût des tendances numériques notamment. Donc c'est la contraction de deux mots anglais, brain, donc le cerveau, et rot, c'est pourrir, le pourrissement. Donc si on le traduit littéralement, ça veut dire pourriture cérébrale. Mais si on l'emploie aujourd'hui donc dans ce contexte numérique, c'est pour qualifier un phénomène d'abrutissement numérique. Ce serait une traduction un peu plus juste. C'est-à-dire la tendance à consommer des vidéos très courtes et de piètre qualité sur des plateformes et des réseaux sociaux qui s'y prêtent bien. TikTok évidemment, mais aussi Instagram avec son format Reels, aussi YouTube avec son format Short, puisque même les plateformes d'images, de vidéos plus connues et plus anciennes développent maintenant des formats où les vidéos en fait s'enchaînent dans un flux continu. C'est un phénomène qui en plus est accéléré aujourd'hui avec le développement des IA génératives qui permettent de produire une avalanche de contenu, disons, bas de gamme et qu'on qualifie aussi de brain rot. Donc le brain rot, ça peut parfois qualifier l'offre de ces vidéos-là et parfois aussi la demande, c'est-à-dire les effets ressentis par les plus jeunes. Eux-mêmes utilisent beaucoup le terme de brain rot qui est dans sa définition officielle, je cite, la détérioration supposée de l'état mental ou intellectuel d'une personne, considérée comme étant le résultat d'une surconsommation de contenu en ligne, considérée comme du contenu trivial ou peu stimulant. Ce qui est intéressant dans cette définition, c'est justement le mot détérioration supposée.
Mais alors, parce que, en fait, c'est pas tant une question de. Enfin, est-ce qu'il est question de type de contenu ou seulement de format avec la problématique des brain rot?
Alors, c'est tout le problème. C'est surtout le temps d'exposition à ce flux de vidéos en continu. Aujourd'hui, toutes les études sont bien en peine de définir un seuil de vidéos auquel on pourrait s'exposer sans rien craindre du tout. Et puis, à partir d'un certain nombre de vidéos, ça poserait problème. Non, c'est pas comme ça que ça marche. En fait, on a enfin une grande méta-analyse qui a été publiée à l'automne 2025, qui fait la synthèse de 71 études, pour être très précis, études internationales, donc portant sur au total plus de 100 000 personnes étudiées. Ça a été publié dans la revue Psychological Bulletin, qui est éditée par l'Association américaine en psychologie. Et cette méta-analyse arrive à la conclusion qu'on a en fait une baisse des capacités cognitives, notamment en ce qui concerne la capacité d'attention et le contrôle des impulsions. Plus préoccupant encore, l'étude établit un lien entre consommation de ces brain rot, de ces très courtes vidéos, et augmentation des symptômes de dépression, d'anxiété, de stress et de solitude. C'est des choses qu'on savait déjà un peu, mais dont on attendait une forme de confirmation. Donc, a priori, rien de nouveau, rien de révolutionnaire. Parce que des précédentes études, qui là ne portaient pas forcément sur le brain rot et sur les vidéos courtes, remarquer déjà ce phénomène-là.
Puis en effet, comme vous dites, on a cette autre méta-analyse d'octobre qui rassemble 14 études et dont les résultats aussi met en exergue chez les enfants une baisse des performances scolaires. Donc ce que vous dites en tout cas, c'est qu'il y a quand même pas mal d'études qui prennent ce sujet en main, mais finalement, comment est-ce qu'on enquête sur la dangerosité de cet abrutissement numérique? Quels sont les outils? Qu'est-ce qui est regardé finalement?
Alors, ce qui est regardé, c'est justement le fameux. On parle beaucoup, quand on parle des réseaux sociaux, de la dopamine, donc ce fameux neurotransmetteur qui nous permet en fait de renforcer des actions en général bénéfiques, par exemple manger une banane, qui va activer en fait le système récompense et renforcement du cerveau. Quand vous enchaînez les vidéos de type brain rot, vous activez cette sécrétion de dopamine comme des impulsions de dopamine régulière, et vous habituez en fait votre cerveau à une dose régulière, voire de plus en plus forte, puisque vous créez une nouvelle forme de dépendance entre guillemets à cette sécrétion de dopamine. Ils ont aussi remarqué que sur une utilisation très intensive de brain rot, et c'était déjà le cas sur une utilisation très intensive des plateformes en général, c'est associé à une diminution de la matière grise dans les régions préfrontales du cerveau, c'est-à-dire les zones qui sont impliquées dans le langage, dans la mémoire de travail, dans le raisonnement et plus généralement dans les fonctions exécutives. Donc, on commence à avoir ces conclusions-là. Le problème, c'est que pour l'instant, on parle de corrélation et pas de causalité, puisque effectivement, les sujets étudiés sont essentiellement des sujets jeunes, qu'il faudrait avoir une cohorte beaucoup plus large en termes de personnes, en termes de temps d'études aussi. Et pour l'instant, on n'a pas encore pris le temps de créer cette cohorte.
C'est ça, Mathilde Fontaise, pour le moment, sur ces questions-là, on n'a pas du tout de consensus scientifique.
C'est super difficile à étudier. Donc là, on a bien vu, il y a un rapport de l'ANSES qui est paru le 13 janvier, je crois, et qui faisait un peu un énorme bilan de la biblio sur les risques des réseaux sociaux, en particulier chez les jeunes. On a pu établir un lien de cause à effet pour ce qui est de la réduction et du volume et de la qualité du sommeil. Voilà, donc ça c'est un truc sûr. Les réseaux sociaux et les smartphones en général ont un effet sur notre sommeil. Et d'ailleurs cet effet pas particulièrement plus aigu chez les ados qui sont en ce moment vraiment, on est tous en train de regarder ce qui se passe chez eux, hein, puisque on sait bien qu'à cet âge-là, la plasticité cérébrale, la plasticité émotionnelle n'est pas la même que chez l'adulte. Mais on voit pas tellement de différence. Et donc mis à part la question du sommeil, Et la question aussi de la vulnérabilité, en particulier des jeunes filles, donc psychologique vis-à-vis de la représentation de soi, donc tous les risques d'anorexie, etc., qui sont bien documentés et réels. Et sinon, pour le reste, en fait, il s'agit de corrélations assez faibles, et même de corrélations, on parle de corrélations bidirectionnelles, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas trop à savoir s'il s'agit d'un lien de cause à effet derrière qui pourrait exister, ou s'il ne s'agirait pas d'une espèce de boucle, en fait, qui accentuerait, d'un catalyseur, pour ce qui est de la santé mentale en particulier.
Blaise Mao.
Il n'y a pas aujourd'hui d'addiction aux réseaux sociaux. On n'est pas addict aux réseaux sociaux.
Il parle de cas problématiques. C'est ça. L'ANSES, et ils sont très très faibles. Hein. C'est 2,2% des filles et 1,5% des garçons. Donc c'est cas problématiques où on pourrait comparer, même si le mot est faux, à, on va dire, une addiction à des enfants accros. Ils sont extrêmement faibles. Donc c'est un effet ténu qu'il est très difficile de documenter.
Philippe Pajou, par rapport justement à ces effets, on peut repenser à ce qu'on est en train de dire. Ça peut rappeler aux arguments dont on entendait parler au moment du zapping télévisuel, d'abrutissement numérique également.
La question aussi qui se pose, c'est est-ce que ces formats courts finalement qui sont néfastes, ou finalement est-ce que c'est pas cette économie de l'attention avec des algorithmes qui nous font changer, qui nous font zapper justement également pour la télévision, qui pose problème. Mais ça, c'est comme tu le disais, le problème c'est que pour l'instant on n'a pas d'informations là-dessus, parce qu'il faudrait avoir des cohortes qui permettent de vérifier ça. Et par ailleurs, évidemment, il y a aussi tous les facteurs confondants qui sont difficiles à mettre enfin, à comparer. Est-ce que finalement, est-ce que c'est pas le sommeil qui est mauvais, qui pourrait aussi causer ces problèmes-là? Enfin, tu vois, il y a plein de...
Ce qui est certain, c'est que les conclusions de la méta-analyse et d'autres études récentes expliquent vraiment que le problème vient de la quantité de ces vidéos courtes. En fait, c'est pas un problème de durée de la vidéo. C'est pas parce qu'elle fait 6 secondes qu'elle est problématique, entre guillemets. C'est vraiment parce qu'on est exposé maintenant à un flux continu, où on n'a même plus d'action commander, rechercher, et où ça vient vraiment en flux tendu, en fait. Et donc, elles sont quasiment sur la plupart des grandes plateformes, elles sont devenues incontournables. Ce format-là de vidéo est devenu incontournable. C'est ça qui est aussi nouveau dans le phénomène d'exposition.
Est-ce qu'on a des informations sur les adultes, justement, pour l'instant, ou c'est sur les jeunes?
Non, pour l'instant, on a beaucoup concentré les études sur les jeunes. Voilà. Il y a certaines études qui vont sur une définition large de la jeunesse, qui vont pousser jusqu'à 30, mais on n'a pas non plus de conclusion intéressante et fiable sur les publics adultes.
Mathieu Lefrançois, on parlait de rapports, de corrélation, causalité. On a même aussi des études qui essayent de se pencher, qui viennent interférer sur les modifications structurelles au niveau cérébral. Enfin, ça dit aussi quelque chose de l'état de la recherche qui est très vivotante sur ce sujet, où le consensus scientifique est en train d'advenir.
Oui, mais ce qui est très compliqué, c'est ce que Mathilde disait, c'est qu'en plus on a un âge où il y a une énorme plasticité cérébrale, donc observer des modifications structurelles, encore faut-il derrière être capable d'en tirer une interprétation qui soit pas sujette à débat ou à polémique, ou une interprétation qui fasse consensus dans la communauté.
Ouais,
à ce sujet-là, il y a une psychiatre de l'université de Floride, Amanda Elton, qui dit qu'il ne faut pas parler de vieillissement accéléré du cerveau. C'est un terme qu'on entend parfois pour parler des effets justement de l'exposition aux réseaux sociaux. Elle a dit que le vieillissement du cerveau, le déclin cognitif, c'est vraiment quelque chose de très précis. Ça concerne vraiment plus l'âge avancé. Et elle dit qu'il faut être très prudent dans les mots qu'on utilise. Mais il semblerait, c'est son hypothèse en tout cas, qu'effectivement il faille sur cette question-là aussi... faire la distinction entre l'âge chronologique et l'âge biologique. Et donc peut-être quand même que les réseaux sociaux détériorent, à défaut de faire vieillir en bonne et due forme nos cerveaux. En tout cas, c'est une piste. Et puis ce que nous dit un endocrinologue qui s'appelle une endocrinologue qui s'appelle Nidhi Gupta, elle dit c'est prématuré de crier au désastre. On n'a pas encore la matière, les preuves d'un désastre en cours. Mais elle dit attention aussi, parce qu'on a mis 75 ans a prouvé que l'addiction à l'alcool et au tabac était vraiment scientifiquement valide. Donc il faut voir aussi le temps qu'on va mettre à valider les premières intuitions sur la question du cerveau des jeunes, mais pas que. Oui, en effet, leur exposition au réseau.
Et sur cette question justement du lobby sur l'industrie du tabac, de l'alcool, on reviendra sur ces questions-là plus largement et on parlera également d'IA jeudi prochain. Dernière autre question, je suis obligée de vous la poser aussi, Blaise Mao. Est-ce qu'on peut pas avoir aussi autre piste? Un papier intéressant dans The Conversation qui disent que le brain rot, ce serait une forme de communication, une forme communicationnelle nouvelle qui mobilise réflexion et qui permet d'interagir socialement et qui donc est plutôt une bonne chose pour notre cognition.
Je pense qu'il faut vraiment pas condamner le format en tant que tel, le format vidéo de 6 secondes. Il y a des nouvelles manières de raconter des histoires. Ces formats-là sont aussi utilisés par des médias. Et les jeunes savent aussi élaborer des stratégies pour contourner cette exposition au brain rot, mais ils sont quand même les premiers à utiliser ce terme, à se plaindre de ces effets et à ressentir eux-mêmes cette espèce d'effet de lassitude et de fatigue extrême. On parle de doom scrolling pour qualifier ce phénomène, de s'enfoncer toujours plus loin dans le flux de défilés d'images et de vidéos. Donc il faut quand même être aussi à l'écoute de... Il n'y a pas un appel à l'aide massif de la jeunesse, mais il y a quand même beaucoup de jeunes qui demandent à être aidés pour sortir de cette consommation d'informations... Là.
Mathilde Fontes, pour conclure.
Il y a une image que j'aime beaucoup et qui nous a été dite par des chercheurs qui travaillent sur le sujet et qui plaident justement pour une régulation des plateformes, hein, puisqu'il s'agit bien de contenus qui sont faits pour ça, en fait, pour nous happer, pour ne jamais nous laisser partir. Et bien évidemment, on sait bien qu'un ado aura plus de mal encore qu'un adulte à partir. On parle de prédation. Il faut se rendre compte et dire sans doute aux jeunes que quand ils sont devant un écran pendant une heure, ils sont prédatés pendant une heure. Et donc forcément, quand on est prédaté, on en sort un peu fatigué.
Tout de suite, on continue, on passe à un autre type de consommation, peut-être moins fatigante. Alors, quels sont ces fruits que l'on adore et qui risquent de disparaître? On poursuit avec le magazine Science et Vie Junior.
France Culture, la science CQFD, Natacha Triou.
En direct sur France Culture, on fait le tour de l'actualité des sciences avec la crème de la crème du journalisme scientifique. On vient de parler de l'éventuelle dégradation cognitive provoquée par la consommation de vidéos courtes sur les réseaux sociaux. À présent, parlons de bananes. La banane est le quatrième aliment le plus consommé et le plus échangé au monde, derrière le blé, le riz et le maïs. Ça, c'est ce que j'ai appris en vous lisant, Mathieu Lefrançois, avec un grand sourire. Vous nous rappelez l'importance de ce fruit.
L'importance de ce fruit est l'importance de l'origine de la banane qu'on consomme tous les jours. Effectivement, oui, c'est un de nos journalistes, Hugo Leroux, qui publie cet article dans le prochain numéro là qui sort le 11 février. On s'est intéressé en fait à la domestication, alors pas animale mais végétale, c'est-à-dire les fruits. Notamment les fruits, voilà, qu'on consomme tous les jours. Et la banane, donc, je ne sais pas si vous le savez, Natacha, mais la banane, que peut-être vous consommez en grande quantité, n'existe pas à l'état naturel.
Mais non, je ne savais pas. Et ça m'a beaucoup étonné. Alors, comment est-ce que l'humain a-t-il domestiqué la banane? C'est vrai qu'on connaît l'histoire de la domestication du chien. Mais la banane, et cette banane-là, hein, puisqu'on parle d'une variété particulière, la banane Cavendish, elle a une histoire aussi, elle aussi étonnante.
Elle a une histoire. L'histoire de la domestication, en fait, ça remonte à très loin, puisque ça remonte au néolithique. Pour faire simple, la transition entre des chasseurs-cueilleurs et l'installation d'une agriculture sédentaire. C'est-à-dire, comme finalement on est passé de nourriture qu'on cueille à une nourriture qu'on va produire pour consommer. Et vous parliez justement de comment est-ce qu'on domestique, comment est-ce qu'on a créé la banane Cavendish. Et ben déjà on commence par sélectionner en fait les plantes qui vont donner les plus beaux fruits. Et de cette sélection, on cultive, on croise ces fruits pour avoir de nouvelles variétés, et puis on garde des variétés plus intéressantes et on les recroise et ainsi de suite. Alors c'est évidemment on s'en doute un processus historiquement très long, et peut-être on pourra avoir l'occasion d'en revenir, mais qui, avec les développements des techniques génétiques, c'est un processus qui a pu s'accélérer ces dernières années. Et c'est comme ça qu'on est arrivé en fait à créer cette banane Cavendish à partir d'une banane. Si vous prenez une banane sauvage, je vous mets au défi d'arriver à la finir, parce qu'elle est petite, elle a d'énormes graines. Elle a une peau épaisse, c'est vraiment pas très ragoûtant, je veux dire, si vous me passez l'expression.
Immangeable, on peut le dire.
Immangeable, voilà. Rien à voir, effectivement, avec ce beau fruit jaune, bien calibré,
sucré
et qu'on a plaisir à savourer. Et ce qui est arrivé sur la banane, c'est arrivé aussi sur plein d'autres fruits.
Bon, en effet, puisque donc il existe des centaines de variétés de bananes dans le monde, mais le monde entier consomme cette même banane. Alors pourquoi d'ailleurs Cavendish? Ça aussi, je crois que c'est une, elle tire son nom d'un aristocrate, il me semble. Oui, d'un aristocrate qui du coup cultive cette variété dans une serre. Et alors, depuis, il y a des chiffres étonnants, hein, depuis le début des années 60, c'est ce groupe-là qui est le plus cultivé, qui représente quand même plus de 97% du commerce international. Ça aussi, ça dit quelque chose de la production de ce fruit à l'échelle planétaire.
Ah, mais c'est un quasi monopole. C'est-à-dire, sur les, on va dire, plus de 1000 variétés de bananes existantes, celles qu'on va trouver, en fait, en circulation, en consommation, ça va être 4, 5. Et la Cavendish, effectivement, c'est ce que vous venez de dire, Natacha, et c'est un ultra monopole. Ce qui veut dire aussi qu'en fait, toute la chaîne de production et la chaîne de distribution est organisée autour de cette variété-là, et ce qui soulève, en fait, beaucoup de soucis.
Sur sa culture, alors le bananier est l'une des plantes les plus anciennement cultivées. Les premiers vestiges horticoles découverts sont en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Ils datent d'environ 10 000 ans. On parle de la banane Cavendish, d'un fruit parthénocarpique. Qu'est-ce que ça signifie, ça?
Tout à fait. Alors, rentrons un peu dans les détails. C'est un fruit, en fait, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de graines, en fait, dans la banane. C'est justement un des aspects qu'on apprécie par rapport au raisin ou à la pomme, notamment. Et effectivement, la banane, en fait, a un mode de reproduction qui est assez particulier. Traditionnellement, en fait, comment est-ce qu'on reproduit, en fait, une plante? Il y a le pistil, en fait, qui fait office d'organe femelle pour aller très vite, qui est pollinisé par les abeilles, entre autres. Et de là, effectivement, ça donne des graines, ça donne des fruits, et ainsi de suite. La banane est un peu particulière. Alors, la banane Cavendish est encore plus particulière, puisqu'en fait, la banane Cavendish est stérile. C'est-à-dire que là où, effectivement, vous prenez une pomme, vous prenez les graines de pomme, vous arrivez à les replanter, il vous faudra un petit peu de temps avant d'avoir un pommier digne de ce nom. Mais voilà, pour la banane, effectivement, c'est stérile. C'est lié, justement, voilà, à ce mode de reproduction.
Voilà, un fruit parthénocarpique, puisque ça du grec parthénos vierge, carpos fruit, on en vient. Merci pour cet éclairage. Alors, comment un végétal peut donc finir par donner des fruits sans graines? On dit aussi que la Cavendish est donc la Vierge Marie des plantations. On poursuit avec notre deuxième archive du jour.
C'est vrai que quand vous regardez la manière dont travaille la filière en aval de la plantation, les cartons sont un multiple de la longueur de la banane Cavendish. Les containers sont un multiple du nombre de cartons et même les porte-containers sont un multiple du nombre de containers. Enfin, tout est organisé autour d'une seule variété. Actuellement, on n'a pas de variété résistante qui permette de prendre le relais de la Cavendish. Toutes les variétés que nous avons testées jusqu'à maintenant avaient un certain nombre de défauts qui sont jugés rédhibitoires par les marchés, soit de trop grande fragilité, de durée de vie verte trop faible ou autre. On peut espérer que les hybrides que nous sommes actuellement en train d'étudier arriveront à répondre à cette question, mais on est incapable de vous dire si ces hybrides seront disponibles pour les agriculteurs dans 5 ans, dans 7 ans ou dans 10 ans.
En Belgique, à l'université de Louvain, se trouve la plus importante collection de bananes au monde. Plus de 1000 variétés sauvages provenant de toute la planète.
Il est temps qu'un consommateur va au supermarché, peut choisir dans le supermarché entre plusieurs variétés de bananiers. Comme nous faisons ça déjà pour les pommes ou pour les poires. C'est faisable, mais il faut créer un changement de mentalité. Je pense que d'abord, on doit commencer à informer le consommateur. Voilà, il y a plusieurs goûts et naturellement plusieurs couleurs de bananier. Et qu'un bananier ne doit pas être si beau et si jaune, parce qu'il y a aussi des bananiers rouges et bleus et gris et presque noir, disons, et ils sont de bonne qualité.
reviendra dans quelques instants sur Volet Solutions, mais voici, c'était une archive, un extrait du documentaire Archipel sur la RFO en 2009. Mathieu Lefrançois, ça veut dire que déjà, cette variété de bananes est menacée depuis un certain temps quand même. C'est pas la première fois dont la presse parle de la menace, d'un danger qui parle d'un danger qui pèse sur cette variété-là.
Effectivement, il y a un danger qui pèse sur la banane. Pourquoi déjà? Parce qu'en fait, avec un tel monopole de la Cavendish, ça veut dire très peu de diversité sur les variétés de bananes. Et donc très peu de diversité, ça veut dire une plus grande exposition aux maladies, que ce soit les champignons et les virus. Et dans le cas de la Cavendish, effectivement, c'est un champignon, le Fusarium oxysporum, et qui contamine, qui peut décimer donc des plantations entières. Et alors aujourd'hui, ce problème est connu effectivement depuis longtemps. C'est surveillé, je dirais, comme le lait sur le feu par les autorités sanitaires. Et la question, effectivement, c'est quelle solution trouver à ce problème.
Et ça, justement, quelles sont les pistes à l'étude ou les non-pistes à l'étude, parce que dans le cas de la Cavendish, c'est particulièrement compliqué.
Alors c'est effectivement particulièrement compliqué pour la Cavendish, notamment parce que ce que je disais tout à l'heure sur son aspect stérile, puisqu'effectivement aujourd'hui, comment rendre des fruits plus résistants aux maladies, ça peut être éventuellement des croisés avec une variété qui elle est résistante. C'est pour ça qu'effectivement il y a beaucoup, notamment l'INRAE fait ça en France sur des agrumes ou sur des pommes en cultivant donc tout un tas de variétés d'agrumes, de pommes pour protéger ces espèces-là. Le problème de la banane, c'est justement l'aspect stérile. Alors l'autre question qui se pose, c'est quid de l'édition génétique, c'est-à-dire si on ne croise pas, peut-être est-ce qu'on peut éditer le génome de la banane Cavendish pour la rendre plus résistante.
Plus résistante, par exemple, à ces maladies fongiques.
Notamment à ce champignon. Ouais.
Mathilde Fontaise, on parle de la Cavendish, mais c'est pas le seul fruit cloné qui est en péril aujourd'hui avec ce mode de culture-là. Enfin, il y a quand même globalement assez régulièrement à ce micro d'entendre parler. De fruits domestiqués qui sont mis en danger par le fruit même de leur domestication.
Oui, et puis par le réchauffement. C'est-à-dire qu'il y a le croisement aussi de deux choses qui arrivent en même temps, qui sont d'une part une industrie agroalimentaire qui va avoir comme ça focalisé tous ses efforts sur une espèce en particulier qui va avoir été standardisée, on va dire, et parallèlement un changement climatique qui va donc provoquer une plus grande variation qu'avant en termes de pluie, en termes de température, et on a le croisement de deux choses qui sont explosives, puisque évidemment, on le voit sur le café notamment, où il y a des grandes inquiétudes pour le café aussi. On a une situation très tendue et qui oblige tous les chercheurs à réfléchir à des solutions génétiques, à travailler les hybridations, à aller rechercher aussi, on en parlera peut-être, des espèces anciennes qui possèdent ces résistances naturellement et qu'on pourrait, en accélérant maintenant avec les outils modernes, en gros, le processus de sélection qui s'étale d'habitude sur des dizaines et des dizaines d'années, essayer d'aboutir comme ça à des espèces qui pourraient être aussi concurrentes que belles.
Oui, comme vous disiez, sur le stockage de l'INRAE avec des espèces qu'ils collectionnent depuis les années 70.
Et alors, par exemple, sur les agrumes notamment, on a le citron caviar qui est pas très beau, beaucoup moins beau que le citron qu'on trouve, mais qui se trouve être beaucoup plus résistant. Et donc effectivement, voilà, il y a des projets de recherche pour essayer de créer des espèces hybrides plus résistantes. Ouais.
On est en Europe aussi, on a des abricots et des pêches, Philippe Pajot.
Et puis aussi des fruits et des légumes qui reviennent à la mode aussi, justement. On parlait d'éduquer un peu les gens à ces fruits qui sont pas parfaits, parce que c'est vrai que cette quête du fruit parfait, finalement, conduit à une impasse biologique quelque part, qui est quand même très problématique. Il faut voir le coût évolutif de ces choix, jusqu'où peut-on réduire finalement la diversité sans fragiliser le système agricole. C'est ça le vrai problème. Avec le réchauffement climatique qui rajoute une couche derrière, on est quand même mal barré.
Blaise Mao, pour conclure, comment faire pour éviter un scénario catastrophique où on verrait des variétés fruitières disparaître?
Faire comme pour les céréales et arrêter la monoculture, et surtout peut-être éduquer. C'est vrai que ce que disait Philippe est important. Je pense que ça prend du temps de changer des habitudes alimentaires. On l'a vu avec l'échec relatif, mais pour l'instant, l'échec, en tout cas chez nous, de la consommation d'insectes comme alternative en termes de protéines, ça ne prend pas. Il y a une vraie résistance en France. Je pense que c'est compliqué quand même d'arriver à... Alors, il y a plein de gens qui seraient peut-être prêts à manger des fruits moches. Moi, ça ne me pose aucun problème. Mais je pense que ça prend peut-être du temps de les généraliser en rayon.
Mais tu le fais. Je suis totalement d'accord là-dessus. Il y avait un mot qui était très important dans l'archive tout à l'heure, c'était le mot « défaut ». Il faut sortir de cette tyrannie du beau fruit et réintroduire de la diversité dans notre alimentation.
Bon, on poursuit vers le beau, toujours avec le rêve de l'invisibilité, mais pour les avions de chasse, physique et géométrie se conjuguent pour rendre ces appareils toujours plus invisibles au radar. On en parle dans quelques instants.
A bananeira sei não, a maneira de ver. Bananeira não sei, bananeira sei lá. A bananeira sei não, isso é lá com você. Bananeira não sei, bananeira sei lá. A bananeira sei não, a maneira de ver. Bananeira não sei, bananeira sei lá. A bananeira sei não, isso é lá com você. Será no fundo do quintal, quintal do seu olhar, olhar do coração. Bananeira não sei, bananeira sei lá, a bananeira sei não, a maneira de ver. Bananeira não sei, bananeira sei lá, a bananeira sei não, isso é lá com você.
Bananera d'Emilio Santiago en direct sur France Culture, car on vient de parler de bananes et qu'on s'apprête à parler de grand nombre de sujets scientifiques puisque c'est notre club actu aujourd'hui avec nos quatre invités du jour. Mathilde Fontaise, rédactrice en chef du magazine Epsilon, notre magazine partenaire. Blaise Mao, rédacteur en chef du magazine Ouzbek Erika. Philippe Pajot, rédacteur en chef de la recherche. Et Mathieu Lefrançois, chef de rubrique physique pour le magazine Science et Vie Junior. Et tout de suite, Philippe Pajot, pour la revue La Recherche, vous posez une question. Comment devient-on invisible ?
Mrs. Brady, vous êtes la femme de Peter Brady, l'homme invisible.
En effet.
Oui. Comment devient-on invisible ?
Oh, mon cher monsieur, moi, je n'en sais rien.
Ah, mais il y a pourtant un truc, enfin une drogue, que sais-je.
Oh, non. Ah, non, dans le cas de mon mari, en tout cas, ce n'est pas ça, c'est plutôt un microbe. Vous voyez, il a attrapé ça comme on attrape un rhume.
Ah.
Oui, je sais où. C'est à Saint-Tropez. Vous savez, c'est cet endroit où tout le monde aime tant passer inaperçu.
Oui, en effet. Et dites-moi, Mrs. Brady, quelle impression cela vous a-t-il fait les premiers temps de vivre avec l'homme invisible ?
Les premiers temps, c'était gênant, parce que tout le temps, je m'asseyais dessus. Ah. Hein? Et puis aussi, je le bousculais devant le miroir.
Qu'est-ce qu'il faisait devant le miroir ?
Eh bien, il disait qu'il était en contemplation devant son abstrait.
Oh, ça doit être très désagréable, quoi.
Pas exactement. Vous voyez, un homme ordinaire, quand il est grossier, il va devant la femme.
Oui.
Quand il est galant, il est à son bras. Et quand il est raisonnable, il suit la femme. Mais l'homme invisible, il est partout. Il cerne la femme. Alors, la femme, elle vit une existence frôlée. Ce n'est pas si désagréable.
Oui, en effet. Vous me donnez des regrets.
Oh, bon. Je l'espère bien.
Voilà un extrait de l'émission Le Bon Numéro en 1963. Voilà un sketch pour introduire ce que vous évoquez dans la recherche, Philippe Pajot. L'invisibilité, c'est un fantasme.
Oui, au risque de vous décevoir, effectivement, l'invisibilité n'existe pas vraiment. Hein, parce que exister, c'est interagir et donc, du coup, c'est être vu quelque part. Alors, on rêve d'invisibilité depuis l'Antiquité, hein, la Cunée, le fameux casque d'invisibilité offert par les nymphes à Persée, qui lui a permis notamment de tuer Méduse, jusqu'à la cape d'invisibilité d'Harry Potter. Mais la science, en fait, raconte une autre histoire. Hein. C'est le point de départ du dossier de la recherche consacré à l'invisible actuellement au kiosque, avec des multiples entrées, l'invisibilisation, la censure, mais également de la physique. Et justement, c'est là où je voulais en venir. C'est un exemple très, très pratique, qui est la furtivité des avions, mais des bateaux, des sous-marins, ou on pourrait même parler de la cape d'Harry Potter pour terminer. Donc,
à quel moment, justement, un avion militaire est-il qualifié et dit furtif ?
Alors, être invisible, ça veut dire quoi? Ça veut dire, en fait, que... Alors, d'abord, pour les avions, il y a plusieurs aspects. Il y a un premier qui est qu'on essaie de les repérer avec des radars. Donc, les radars, c'est quelque chose qui émet une onde électromagnétique qui va être réfléchie par l'aéronef, hein, l'avion, et qui va renvoyer un signal. Évidemment, c'est à partir de ce signal envoyé qu'on va... découvrir l'avion. Donc, il y a un concept assez classique qu'on appelle la surface équivalente radar. En fait, c'est à quel point vous allez être visible par le radar. Et l'une des idées, c'est de réduire cette surface équivalente radar.
Oui, qui est aussi appelé dans le métier SER.
SER, voilà.
Quels sont justement les moyens, les astuces pour réduire cette surface où on peut être détecté par un radar?
Alors, il y a pas mal de méthodes. Il y a une méthode qui consiste à ouvrir l'avion avec des facettes planes, en fait, qui renvoient dans plein de directions, donc pas dans la direction du radar incident. Donc c'est le cas de l'avion F-117. Vous savez, cet avion américain là, qui a commencé à voler en 83 et qui était très triangulaire avec une forme très caractéristique. Mais le problème, c'est que la physique, elle est derrière et qu'il y a des arêtes et des sommets et des pointes et ça diffracte et donc du coup ça pose des problèmes. Et c'est pour ça qu'ensuite on est arrivé à des formes lisses et arrondies qui n'ont pas d'arêtes. Et c'est le cas des avions plus récents, notamment les chasseurs B2 et B21, qui est le dernier. Et pourquoi c'est quelque chose qui est arrivé plus récemment? Parce qu'en fait, très pratiquement, c'est plus difficile à calculer. Parce que pour calculer effectivement la structure, l'onde que va renvoyer, en fait, que va diffracter l'objet, ça demande des moyens de calcul assez énormes. Donc, s'il fallait résoudre les équations de Maxwell initiales, on ne pourrait pas le faire. Donc, on a des moyens, des approximations. Et maintenant, on arrive à le faire avec des choses un peu plus précises. Et on arrive à avoir des avions qui ont d'autres formes. Voilà, une autre méthode aussi, ça c'est d'augmenter l'absorption, parce qu'évidemment il y a la SER, et puis on peut se dire aussi on peut jouer à ce moment-là sur les matériaux et les revêtements qui sont à la surface, hein, ce qu'on appelle des RAM. Alors c'est pas la mémoire pour les ordinateurs, la RAM, c'est du Radar Absorbing Materials. En gros, c'est une éponge à ondes en quelque sorte qu'on va essayer de mettre à la surface de l'objet dont on veut réduire, évidemment, qu'on veut rendre furtif. Et donc, du coup, l'énergie incidente va être absorbée, elle va être transformée en chaleur, hein, puisque vous savez que l'énergie ne se perd pas, elle se transforme. Donc, l'énergie, il faut bien qu'elle parte quelque part, donc elle va chauffer, et donc, en fait, elle ne va pas être envoyée. Et puis, il y a une troisième tactique, hein, la première, réduire la fameuse SER, monter l'absorption. La troisième, c'est ce qu'on appelle la tactique d'emploi. Donc là, c'est très précis, c'est très spécifique à la stratégie militaire. Ça veut dire que c'est le pilote qui va jouer sur les axes d'approche parce que en fonction évidemment de l'angle, il va exploiter le relief, il va réduire ses propres émissions radio. Alors, mais la furtivité, c'est pas seulement l'électromagnétisme.
Mais ce que j'allais dire, ouais. être furtif, c'est pas l'invisibilité, c'est pas forcément. Ça met aussi en jeu le silence. C'est ça que
Exactement.
Je trouve assez étonnant dans ce dossier. La discrétion radar, elle passe par beaucoup de choses, voilà. Par plein de signatures.
Il y a la signature acoustique, évidemment le bruit du moteur qu'on va essayer de réduire, la signature optique. Simplement, quand vous voyez passer l'avion, même si le radar le détecte pas, quand vous voyez passer, vous le voyez, quoi. Donc il a beau être furtif, il est vu. Et de la même façon, l'infrarouge, parce que la chaleur des fuyères, évidemment, elle va être importante et donc il va être visible en infrarouge. Donc tout ce jeu de furtivité, c'est un équilibre en fait entre la performance qu'on veut avoir, la disponibilité technique et puis les menaces contre lesquelles on veut se prémunir. Hein, voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On peut parler aussi un peu du futur de la détection. On a des radars qu'on appelle des radars métriques, qui ont des plus grandes longueurs d'onde, ce qui permet de détecter plutôt certaines cibles au prix d'une bonne résolution. Et aussi, on a des techniques de traitement de signaux avec l'intelligence artificielle aujourd'hui qui arrive, l'apprentissage automatique, le statistique, qui arrive à détecter des signaux de plus en plus fins.
Les détecter, faire le distinguo entre le bruit et le signal, c'est ça?
Exactement. Et puis, évidemment, il y a tout ce qu'on appelle les poids intelligentes. Donc, on a parlé de poids absorbants tout à l'heure.
Mais ça, c'est fou. Les métasurfaces.
Des métasurfaces, des métamatériaux qui vont s'ajuster en temps réel aux signatures électromagnétiques selon la fréquence et l'angle d'incidence. Voilà. Et pour les sous-marins, on peut aussi prendre l'exemple des sous-marins où c'est un peu la même chose. Donc là, cette fois-ci, c'est complètement acoustique, hein, puisqu'on regarde vraiment le signal acoustique et non plus électromagnétique, et donc réduire effectivement son signal de réflexion, réduire les bruits. Donc on va isoler mécaniquement les moteurs, on va avoir une propulsion électrique, on va limiter ce qu'on appelle la cavitation. La cavitation, c'est des petites dépressions locales qui créent des bulles, qui font beaucoup de bruit, qui sont très très gênantes. Et là également, on va avoir essayer d'avoir des revêtements qu'on appelle anéchoïques. Donc anéchoïque, c'est-à-dire sans écho. Vous connaissez sans doute ces chambres anéchoïques, c'est ces chambres qui ont plein de petits picots dans lesquels le son est absorbé. Eh bien, on essaie de fabriquer des revêtements anéchoïques qui permettent donc d'absorber et de désorganiser l'onde réfléchie. Alors tout ça, c'est des choses qu'on peut pas détailler parce que c'est assez sensible et c'est assez secret défense. Mais évidemment, tout ce qui permet de diminuer les interactions, parce qu'on peut jamais complètement les supprimer.
Oui, c'est ça. C'est comme vous dites. Je prends une citation de ce dossier. La furtivité n'est pas l'invisibilité. Elle n'efface pas la trace. Elle l'amenuise. En fait, toutes ces questions-là, elles sont traitées et abordées du côté des militaires par le biais vraiment de la physique et de la géométrie pure. En fait, enfin, comment minimiser l'observabilité d'une cible, comment justement modéliser la diffraction du son et de la lumière. Sont des questions finalement Exactement. Profondément mathématiques et physiques.
Derrière, comme je le disais au départ, c'est les équations d'électromagnétisme de Maxwell. C'est vraiment ce phénomène de diffraction qui est là derrière. Et ce qui est assez fou, c'est que on savait pas les calculer. On sait pas les calculer exactement encore, parce que ça demanderait évidemment, si on voulait les calculer pour un avion complètement tout entier, on ne pourrait pas le faire. Donc on fait des approximations et on arrive petit à petit, mais avec des moyens de calcul qui augmentent aujourd'hui, à faire ça de manière très fine.
Blaise Mao.
Oui, on a publié un article il y a quelques semaines sur les smart dust aussi, qui sont une sorte de poussière intelligente en français, qui sont en fait des nuages de microcapteurs, où là aussi, ça serait des outils de la taille vraiment du nanomètre qui permettraient d'être envoyés pour ramener de l'information, collecter de l'information. Donc là, on est dans un registre aussi de furtivité, par exemple, pour, dans un cadre militaire, ramener des données sur le taux d'humidité d'un lieu, la luminosité, la température exacte, avant un déploiement, un assaut, peu importe, enfin avant une action, mais presque dans un registre de collecte d'informations, et on est vraiment sur du microcapteur quasi invisible, en tout cas trop petit pour être facilement détecté.
C'est presque comme des essaims de robots, mais vraiment à échelle atmosphérique.
Exactement.
Je vous vois Mathilde Fontaise réagir également.
Oui, parce que on est dans un moment assez singulier, hein, où on a plein de technos qui surgissent, des problématiques nouvelles et qui sont liées d'une part à l'IA, on en a un peu parlé, qui va être capable maintenant de casser la furtivité, notamment sous l'eau. Je crois qu'on avait fait un papier nous aussi, on nous avait parlé d'un rapport australien qui annonçait la fin de la furtivité sous-marine pour 2050, avec l'arrivée notamment de l'IA. Et donc on a une bagarre qui commence à devenir assez oppressante entre des spécialistes de la furtivité qui vont essayer de rendre leurs appareils toujours plus furtifs, et puis des technos qui émergent. Et en plus de l'IA, il faut citer les capteurs quantiques qui sont déjà en fait en phase de test, notamment par l'armée française dans les eaux, pour essayer d'améliorer la détection des sous-marins et qui augmentent grandement la sensibilité.
Mathieu Lefrançois.
Oui, j'allais rebondir justement sur ce que vient de dire Mathilde, parce qu'on sent la compétition finalement entre une capacité de furtivité, une capacité de détection et d'analyse du signal pour savoir effectivement est-ce qu'on a repéré un avion furtif ou pas. Et je me posais justement la question des technologies quantiques et de l'accélération promise de cette capacité de calcul, d'analyse du signal, et je pense que ça va être très intéressant à voir.
On parle de surface 100 fois plus grande avec les capteurs quantiques et un déploiement qui est en cours, tandis que les tests sont seulement en train de commencer à être menés, en tout cas pour la partie sous-marine, pour la partie des sous-marins. Les tests commencent seulement à être menés pour l'IA et pour cette capacité de l'IA à pouvoir faire le tri entre une baleine et un sous-marin nucléaire.
Ça va être le jeu du chat et de la souris.
Et donc la conclusion, c'est effectivement que la visibilité n'existe pas.
La visibilité n'existe pas, on continue en tout cas de parler de technologie, mais du côté de la chimie, avec le magazine Epsilon et le grand retour de la mécanochimie.
France Culture, la science CQFD, Natacha Triou.
En en direct sur France Culture. On poursuit notre revue de presse de l'actualité des sciences avec le meilleur de la presse scientifique. Et ce mois-ci, Mathilde Fontaise, on se tourne vers un certain type de chimie, la mécanochimie. Alors on peut peut-être rappeler d'entrée de jeu qu'il y a quand même plein de façons très différentes de faire de la chimie. Et la première, celle à laquelle on pense, c'est les liquides, les gaz, les solvants, la chimie organique. Assez classique comme on se la représente.
Et même les chercheurs qui travaillent en mécanochimie nous disaient « Regardez, sur mon t-shirt, il y a une fiole. » Quand on pense chimie, on pense forcément à liquide.
L'émoji pense... chimie, en effet.
Et on ne pense jamais, jamais, jamais à eau solide. Et c'est vrai que les solvants ont pris complètement le dessus en chimie depuis déjà très très longtemps. Pourquoi ? Parce que quand on met en liquide une substance, elle va avoir une plus grande capacité à réagir. Ça va, en gros, mettre en contact plus facilement les molécules et donc les faire réagir ensemble les unes avec les autres plus facilement. En tout cas, par exemple, en chauffant peut-être par exemple un peu moins. Sauf que le problème, c'est que ces solvants, on se rend compte qu'ils posent un tas de problèmes, qu'ils constituent plus de la moitié des produits utilisés dans l'industrie, par exemple des médicaments. On en utilise plus de 2 millions de tonnes chaque année en Europe et ils sont souvent toxiques. Enfin, c'est le principal déchet en gros de toute l'industrie de la chimie. Et donc on cherche évidemment des solutions pour essayer de s'en passer et on revient à... disons d'anciennes méthodes.
Alors, d'anciennes méthodes dont on va parler dans quelques instants, puisqu'en effet, l'impact environnemental des solvants, c'est une question qui existe depuis un certain temps.
Cette belle clairière, c'est un chantier d'une usine, oui, d'incinération, de traitement, pardon, par régénération de solvants chimiques.
Alors, que lui reprochez-vous ?
C'est assez évident. Tout ce que vous voyez là, ces fameux fûts amassés, il y en a, je sais pas, 7 000, 8 000, ce sont les résidus de cette distillation qui, au lieu d'être évacués au fur et à mesure, sont accumulés depuis des années dans des bidons qui pourrissent, qui répandent leur contenu. La mare que vous voyez, ne croyez pas que c'est de l'eau, ce sont aussi ces fameux produits, phénol, benzol, crésol, et je peux vous garantir que ça ne sent pas très bon. Cet été par exemple, avec la chaleur, ça s'élevait et le soir ça nous retombait sur le nez, c'est le cas de le dire, dans la région jusqu'à 8 ou 10 kilomètres d'ici.
Et une station de pompage là à côté ?
Oui, à 100 mètres à peu près là, derrière les arbres, la station de pompage de l'eau potable, jusqu'à présent elle l'est, la nappe est tout juste à 30 ou 40 mètres et on peut redouter qu'elle soit prochainement polluée.
Voilà un extrait de l'émission La France défigurée, diffusée en 1972. Alors, pour compléter en plus cette présentation de la chimie au solvant, Mathilde Fontaise, a-t-on vraiment besoin de liquide solvant pour faire la chimie ?
Mais en fait, on partait du principe que c'était le plus facile, jusqu'à ce qu'on cherche assez vigoureusement à essayer de s'en passer, au moins pour certaines réactions. Et c'est vrai que c'est comme ça que se sont montés dans différents laboratoires de chimie des manips qui étaient solides. Alors c'est quoi solide ? C'est très rudimentaire. C'est on secoue, on broie, on martèle, on fait tourner dans une espèce de grosse roue qui tourne. On met dans une vis sans fin et on écrase, etc. Donc c'est vraiment le truc le plus rudimentaire qu'on puisse imaginer. À tel point qu'on a voulu titrer, nous, et exaucer le truc dans Epsilon en titrant le grand retour du pilon dans la chimie de pointe, parce que c'est vraiment ça, quoi. On se remet avec son petit mortier, à bouger comme ça une poudre, en la mélangeant à une autre poudre, et en voyant s'il se passe quelque chose, si on parvient non pas seulement à mélanger ou à concasser, mais à faire réagir les substances les unes avec les autres. Et ce qui est fou, c'est que ça marche. Et ce qui est fou, c'est que ça marche en surprenant à chaque fois de plus en plus les chercheurs. C'est-à-dire qu'on a fait un petit tour de tout, enfin, en tout cas d'un sacré nombre de labos dans l'article. La journaliste Valérie Réfaux avait appelé les chercheurs et elle allait à chaque fois d'un enthousiasme à l'autre avec des chercheurs qui disaient « Mais c'est dingue, en fait, ça marche mieux, j'ai pas besoin de chauffer à 1700 degrés » ou « Mais c'est dingue que ça marche, mais c'est dingue que ça fait une réaction qui n'existe pas avec des solvants. Ça fait une réaction nouvelle. » Et c'est comme ça qu'on a accumulé au fur et à mesure des projets, une liste de projets, soit qui pouvaient être dans des laboratoires encore en recherche fondamentale, qui pouvaient être soit, comme on commence à avoir 10, 20, 30 grammes de poudre en rendement de la réaction, et on se dit qu'on pourrait peut-être passer à des quantités plus élevées, jusqu'à même certains laboratoires qui sont en train de préparer leur petite start-up pour lancer un vrai procédé de fabrication qui pourrait être implémenté après dans l'industrie chimique.
Ça, l'implémentation dans l'industrie chimique, ça signifie que c'est une technologie donc viable et envisageable, admirable, souhaitable, parce que également verte.
Verte, en tout cas, le principe, c'est qu'on se passe de ces solvants. On utilise du coup une poudre pour faire réagir avec une autre poudre et du coup, on obtient beaucoup moins de déchets. Donc c'est le principe. Le principe d'une réaction avec des solvants, c'est qu'on a un réactif et souvent un réactif après qu'il faut séparer pour obtenir par exemple la partie solide. Et on va laisser, on va être obligé de filtrer après les solvants, de les retraiter et souvent avec une efficacité qui est limitée, même si les entreprises peuvent faire certaines fois des efforts pour essayer de réduire la quantité de pollution qu'elles occasionnent. On sait très bien que c'est très difficile de séparer des liquides. Et d'un point de vue de la chimie verte, en tout cas d'une démarche éco-responsable, il y a un autre avantage de ces procédés de mécanochimie, c'est qu'ils concernent pas mal en fait, il s'agit de casser des molécules. Et les molécules sur lesquelles c'est le plus efficace, ce sont les polymères. Et les polymères, c'est quoi? C'est votre bouteille d'eau, tous les emballages plastiques, desquels on ne sait que faire, et qu'on a bien du mal à recycler efficacement. C'était pareil, c'est une découverte qui a été faite, par exemple, dans un laboratoire, de manière assez au hasard, quoi. Une équipe, je crois, qui travaillait pour concasser des pots de yaourt, et qui s'est aperçue que, en fait, en les concassant, c'était pas simplement concasser les pots de yaourt, c'était concasser les molécules de ce polymère et qu'on pouvait obtenir des molécules plus petites, des monomères, et qui permettaient qu'on pouvait après réutiliser pour après faire d'autres produits. Donc en fait, ils ont réussi comme ça à trouver un procédé de recyclage sans avoir vraiment cherché à le faire. Et la mécanochimie a pu donner des résultats dans un tas de domaines comme ça, où il s'agit donc de casser des molécules et donc de peut-être espérer pouvoir recycler des plastiques. On a eu aussi des résultats pour les composants de batterie électronique, pour les médicaments, pour des matériaux biocompatibles. Bref, il y a des dizaines de procédés qui sont en train d'être, on va dire, implémenté, peaufiné ou encore en recherche.
Une réaction chimique par réaction mécanique, on comprend comment ça fonctionne au niveau des molécules et de l'atome?
Pas du tout.
C'est mystérieux tout ça en fait.
Pas du tout. Alors les chercheurs commencent à mener évidemment un nouveau truc qui tombe sous le nez d'un chercheur, il va forcément vouloir savoir comment ça marche, forcément vouloir essayer de comprendre les mécanismes à l'œuvre, etc. Mais ce sont des découvertes qui sont au départ des découvertes totalement empiriques. Hein. On veut concasser, et on s'aperçoit que finalement ça change le produit et que voilà, et donc après on cherche à comprendre, donc il y a des modèles qui commencent à être faits, qu'on a nous pu regarder avec des modèles 3D de chimie et de chimie physique et qui essayent de comprendre comment ce qui se passe vraiment. Il y a deux choses que les chercheurs ont pu commencer à comprendre, c'est que il s'agit en fait de pratiquement de la mécanique, hein. La mécanique quand on parle de mécanique, c'est l'action par exemple d'une bille qui tape sur un mur, et bien là il s'agit de la même chose. Quand on concasse, en fait, les molécules sont vraiment déformées et ça peut avoir tendance à abaisser le niveau d'énergie nécessaire pour que des réactions chimiques puissent se produire. Donc c'est comme si on affaiblissait la molécule en la déformant, et comme ça elle réagit avec sa voisine. Les chercheurs ont aussi observé qu'il y avait la création de petites cassures d'artefacts, de points chauds aussi au niveau des molécules, et qui permettent, où les températures sont complètement délirantes, ça peut atteindre 1200 degrés et une pression de 10 000 fois la pression atmosphérique, je crois, localement, hein, tout ça. Mais ces points chauds-là peuvent être les déclencheurs de certaines réactions. Donc on en est là, on en est à avoir un peu quelques petits aspects fondamentaux de comment fonctionne cette mécanochimie, mais on est bien loin, par exemple, de pouvoir vraiment comprendre ce qui se passe et de pouvoir, a fortiori, faire des modèles qui pourraient prédire qu'en prenant la poudre A et la poudre B et en la secouant comme ça et pas comme ci, on obtiendra la molécule qu'on veut.
Les fondamentaux que vous évoquez, c'est même un retour aux fondamentaux, puisque finalement la première chimie a sans doute été pas liquide mais bien solide, comme vous le rappelez dans ce dossier.
Moins 315 avec Théophraste Desrezos dans son traité Les Pierres, donc c'est un traité célèbre en chimie, qui a un peu fondé la science de la chimie, et il a broyé avec un pilon et un mortier une poudre rouge, donc c'était des sels de mercure, pour obtenir un liquide argenté, du mercure métallique qu'on connaît tous, le fameux mercure. Donc c'est une réaction très impressionnante, et c'est vrai que les chercheurs nous en ont parlé en nous disant mais on fait la première chimie, la seule qui soit, puisque c'est la chimie du départ, la chimie avant qu'on se dise bah tiens, si on mélange avec un liquide ça va plus vite,
et même encore avant taper des silex sur des minerais, de faire ça aussi c'est de la mécano
mécanochimie, c'est de la mécanochimie, tout à fait.
On arrive à la toute fin de cette discussion, mais alors avant de donner la place à Alexandra Delbo et sa chronique, un très rapide tour de table sur vos titres ou d'autres sujets qui vous ont plu, Blaise Mao, dans le dernier Ouzbek Erika.
Alors, le nouveau numéro de Futur, donc le magazine d'Uzbek, est en librairie depuis le 15 janvier. Et on a donné la parole à 10 penseurs pour sortir du chaos. Donc, dedans, il y a des chercheurs, il y a des philosophes, il y a tout un tas de personnes qu'on fait un peu découvrir, voilà, pour trouver des prises, pour inventer un monde meilleur.
Ben, à vous, Mathieu Lefrançois.
Et bien dans le prochain numéro, donc, on ne pouvait pas passer à côté le départ de Sophie Adnaud pour l'ISS, et on ne pouvait pas passer à côté des JO non plus, donc la physique de la glisse. Qu'est-ce qui se cache sous la glisse?
Très bien, et vous Philippe Pajot?
Donc à côté de ce dossier sur l'invisible, on a interrogé Hans Elgren, le secrétaire général du comité des sciences de Stockholm, qui raconte les secrets du prix Nobel.
Et vous, Mathilde Vontel, je vous retrouve à mes côtés mercredi, toujours pour Epsilon. Merci à vous, qu'à tout de suite, c'est la chronique avec science.
Comment mieux suivre la chute de débris spatiaux? Il y a au-dessus de nos têtes de sacrés embouteillages. Près de 45 000 objets en orbite sont aujourd'hui suivis par les réseaux de surveillance. Il y a bien sûr des satellites, mais aussi des morceaux de fusées et des fragments issus d'explosions ou de collisions. L'orbite basse est donc encombrée d'objets de toute taille et aucun d'entre eux ne reste indéfiniment là-haut. Ils sont freinés par la très haute atmosphère et donc, inexorablement, ils finiront par retomber sur Terre. Le problème, c'est qu'on ne sait jamais vraiment quand ni où. Christophe Bonal est spécialiste des débris spatiaux et membre de l'Académie de l'air et de l'espace.
Ils descendent progressivement, de plus en plus vite. On les suit au télescope et au radar autant qu'on peut, c'est-à-dire typiquement jusqu'à 200 km d'altitude, 150 km d'altitude. Ça devient de plus en plus dur parce que, premièrement, plus on est bas, plus on va vite. C'est les lois de la mécanique orbitale. Et plus on est bas, plus le temps passé dans le champ de vision d'un télescope, par exemple, est court. Mais donc, ce qu'on fait, c'est qu'on est capable, avec ça, de prédire une date de rentrée dans l'atmosphère, mais avec une forte imprécision. Typiquement, on sait quand on va rentrer à plus ou moins 10% du temps restant. Ça veut dire que vous regardez 10 jours avant la rentrée, vous suivez les paramètres orbitaux, vous voyez, oh là, lui, il va rentrer dans 10 jours à peu près. Donc, c'est 10 jours plus ou moins un jour à peu près. Okay, un jour, c'est 14 orbites. Donc, ça veut dire que vous n'avez pas la moindre idée de l'endroit où il va rentrer.
Et si on n'a pas la moindre idée de là où ces débris rentrent, on ne sait pas là où ils tombent. Pour éviter cela, l'idéal est de pouvoir contrôler la chute, soit en rehaussant l'orbite pour ne pas que l'objet tombe, soit à l'inverse, en provoquant une rentrée dirigée vers l'océan Pacifique. Mais beaucoup d'objets sont inertes, ils n'ont plus de carburant ou même pas de propulsion et donc on ne peut pas les piloter. Le risque théorique, c'est qu'ils nous tombent sur la tête. Mais je vous rassure, c'est un risque extrêmement faible et ce n'est d'ailleurs jamais arrivé. Mais cette incertitude reste problématique, d'où l'envie de développer d'autres moyens de détection de débris spatiaux et c'est ce que propose cette nouvelle étude parue dans Science, écouter leur chute grâce au sismomètre, au détecteur de tremblements de terre.
Lors de la rentrée atmosphérique, les débris entrent dans l'atmosphère à très très grande vitesse. On est à 20 000 ou 25 000 km à l'heure. Et ça génère une onde de choc au niveau de l'atmosphère. Une onde de choc exactement comme un avion supersonique et qui se propage derrière l'objet. Donc, on reçoit l'onde de choc au sol par des sismomètres. On reçoit cette information bien après qu'il soit passé. Sachant que vous avez des signaux qui ont une certaine intensité et une date. Et puis, évidemment, vous savez où sont vos sismomètres. Donc, en corrélant le tout, vous pouvez remonter une trajectoire a posteriori. Donc, une méthode avec des sismomètres correctement placés ne peut pas, par principe même, permettre de prédire une trajectoire de rentrée. On ne peut que la constater une fois qu'elle est passée.
La chute n'est donc pas anticipée, en revanche, sa trajectoire est reconstruite avec précision. La méthode a été testée sur un cas réel avec la rentrée du module Shenzhou 15 en 2024. Les trajectoires orbitales classiques prévoyaient un passage au-dessus de l'Atlantique Nord. En réalité, cette étude montre que l'objet a traversé l'atmosphère 8600 km plus au sud, au-dessus de la Californie et du Nevada, là où se trouvent les sismomètres utilisés dans cette publication. La technique est donc très précise. précise, mais elle n'est pas en soi tout à fait nouvelle. C'est ce qui avait permis de suivre la chute de la station Mir en 2001. Ce qui est plus innovant, c'est l'idée d'en faire une méthode systématique. À terme, l'enjeu serait de mobiliser tous les réseaux de sismomètres du monde pour suivre ces rentrées très rapidement. L'autre sujet d'inquiétude qui émerge est celui de la pollution atmosphérique, car certains objets se désintègrent, du moins en partie. Certes, cela réduit le nombre ou le volume de fragments qui arrivent au sol, mais leurs matériaux se retrouvent pulvérisés dans l'atmosphère et on ne connaît pas encore les conséquences de ces dispersions dans l'air. Avec des chutes d'objets désormais quotidiennes, comprendre où et comment se fragmentent les débris spatiaux devient donc un enjeu environnemental.
Merci Alexandra pour votre chronique et merci à vous pour votre écoute. Un grand merci à toute l'équipe de la science CQFD, à la réalisation Hélène Trigueros, à la technique aujourd'hui Grégory Wallon. C'était ce qu'il fallait démontrer à ce jour.